Bonsoir, il est 11h05, on est mardi soir, c'est mardi gras. Je suis place de la Comédie à Montpellier, qui est une des grandes places. Voilà, on faisait carnaval, c'était sympa, il y avait 3 batucadas. Et puis je suis partie 10 minutes pour pisser chez les copines. Et puis quand je suis revenu, bah, les flics avaient chargé, avec les lacrymos, avec tout ce qu'il faut, tout le monde pleure, enfin c'est la joie quoi. Il y a du verre éclaté partout et j'ai jamais vu qu'on pouvait charger avec des lacrymos sur un carnaval quoi, ça me dépasse. Voilà, bonne soirée à tous, ciao.
Ah, merci Daniel, merci, hein, merci du fond du cœur après cette formidable bouffée d'espoir qui est ton émission sur la fiche rouge ce soir, même si ça te semble paradoxal de parler d'espoir à propos d'un tel événement. Oui, bouffée d'espoir, hein. À l'époque, au moment où certains utilisent ces 23 à des fins nauséabondes, tu as été là pour relever simplement l'honneur. Tu vois, j'avais pas 7 ans lors de l'événement, je ne l'ai pas su, je ne l'ai pas connu. Alors comment tu expliques que, quelque part, depuis tant d'années pour moi, cette affiche-là fasse autant partie de ma vie? Encore une fois, merci. C'est Vincent à Toulouse.
Bonjour, Daniel Mermet. Voilà, hier, en écoutant ton émission, je suis revenue des années en arrière, car cette affiche rouge, je l'ai vue en février 44. Je me préparais à aller travailler. Elle était collée en bas de chez moi. Et je suis restée pétrifiée devant quand j'ai vu tous ces pauvres types qui allaient être fusillés. Et à l'époque, Dieu sait qu'on en entendait tous les jours. Le plus triste, c'est que j'entendais les commentaires des Français autour de moi, des gens qui parlaient. Et évidemment, c'était pas tellement réjouissant à entendre. Il y avait les termes de youpin, de terroriste, et c'est bien fait. Et quand est-ce qu'on sera débarrassé de tout ça? Enfin bref, et j'en pense. Et je n'ai jamais dit à personne. Et le soir, lorsque je suis revenue du travail, je suis repassée devant l'affiche. Et j'ai marqué dessus « Mort pour la France ». Et ça m'a fait du bien, mais enfin bon, c'est pas grand-chose. Hein. Par contre, le lendemain matin, quand je suis repartie travailler, où j'avais marqué « Mort pour la France », c'était effacé. On l'avait arraché. Mais enfin, bref, ça m'a fait vraiment un drôle d'effet d'entendre, de me reporter en arrière. J'avais 17 ans et j'avais vu autour de moi pas mal de gens partir en déportation ou arrêtée par la Gestapo, dont ma propre mère qui avait été dénoncée et arrêtée. Alors, c'est pour ça, vraiment, j'étais bouleversée. Allez, salut.
Oui, Gérard Valck, c'était pour vous signaler que je viens d'écouter avec beaucoup d'émotion l'émission consacrée à l'affiche rouge. Et c'était pour signaler aux auditeurs de là-bas si j'y suis que dimanche dernier, une plaque en hommage à Rino Della Negra, membre du groupe Manuchan, a été inaugurée au Stade Bauer de Saint-Ouen. Ce stade porte d'ailleurs le nom d'un autre résistant, le docteur Bauer, fusillé par les nazis en mai 42. Rino Della Negra était un jeune Italien de 22 ans et joueur de football au Restart. Un joueur de talent et résistant, oui, ça existe. La cérémonie était suivie par plus de 500 personnes avant un match qui a opposé le Restart à l'Arménienne, lors d'un match du championnat de Paris de division d'honneur. Le hasard du calendrier du championnat a voulu que ce match se déroule le week-end du 60e anniversaire des fusillés du groupe Manouchian. Je peux vous dire qu'au contact des anciens résistants, de l'agent de liaison de Rino Della Negra, Inès Tonzi, de son capitaine de l'époque au Restart, Fuenquinos, ce fut un grand moment d'émotion. Donc, si vos auditeurs passent au 92 du rue du docteur Bauer à Saint-Ouen, bah, ils pourront voir sur le mur du stade une plaque qui rappelle le sacrifice de Rino Della Negra et de ses camarades du groupe Manouchian.
Voilà, mémoire autour de l'affiche rouge pour le 60e anniversaire, le reportage de Thierry Scharf hier, ça a suscité beaucoup de réactions sur le répondeur de là-bas si j'y suis. Aujourd'hui, ben écoutez, aujourd'hui, c'est le jour où vous nous faites honte. Ouais, c'est vrai, bon, vous nous critiquez, vous aimez, vous nous critiquez, mais enfin, il y a quand même des jours où nous, on peut vous dire, droit dans les yeux, droit dans les oreilles, vous nous faites honte. On se creuse, on se décarcasse, on prend des risques, on court sous les bonbons, on se fait des tas d'ennemis pour faire ces reportages. Et vous, l'émission que vous préférez, l'émission que vous réclamez, l'émission que vous aimez le plus depuis des années et des années, c'est la soucoupe. c'est la soucoupe de Jean-Claude Ladra. Et inlassablement, on dit oui, ça c'est bien, mais quand est-ce que on aura à nouveau la soucoupe ? La soucoupe, c'est tous les ans. Hein. C'est tous les ans, il faut absolument vous rediffuser la soucoupe. Alors c'est aujourd'hui. Et évidemment, c'est avec plaisir. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur. Je rappelle le numéro, faut-il le rappeler ? Oui, bon, 01 56 40 37 37.
François Meunier. Salut Daniel, c'est bien ce que tu fais. Mon père résiste, il a résisté toute sa vie. Son frère est mort, fusillé par les Allemands. Son petit frère est mort en déportation. Lui aussi a été arrêté, déporté et s'est évadé du train qui l'emmenait vers l'Allemagne. Il est toujours là, 80 ans. Il est à l'hosto en ce moment et il veut pas mourir. Il résiste, il a encore envie de vivre. On va résister avec lui. Il mourra sans haine pour le peuple allemand. À bientôt, je vous embrasse. Salut.
Marc Bordeaux, Louis Aragon, prélude au temps des cerises. Je chante le GPU qui se forme en France à l'heure qu'il est. Je chante le GPU nécessaire de France. Je chante les GPU de nulle part et partout. Je demande un GPU pour préparer la fin d'un monde. Demandez un GPU pour préparer la fin d'un monde, pour défendre ceux qui sont trahis, pour défendre ceux qui sont toujours trahis. Demandez un GPU, vous complie et vous contue. Demandez un GPU, il vous faut un GPU. Vive le GPU, figure dialectique de l'héroïsme qu'on peut opposer à cette image imbécile des aviateurs tenus par les imbéciles pour des héros quand ils se foutent la gueule par terre. Vive le GPU, véritable image de la grandeur matérialiste. Vive le GPU contre Dieu Chiap et la Marseillaise. Vive le GPU contre le pape et l'époux. Vive le GPU contre la résignation des banques. Vive le GPU contre les manœuvres de l'Est. Vive le GPU contre la famille. Vive le GPU contre les lois scélérates. Vive le GPU contre le socialisme des assassins de type Caballero, Boncourt, McDonald, Zurgibel. Vive le GPU contre tous les ennemis du prolétariat. Vive le GPU. Eh oui, c'est le même auteur que celui de l'affiche rouge. Étonnant, non ?
Oui, bonjour à tous, c'est Fred de Suresnes. Ça faisait un petit moment que je voulais appeler pour lire le passage qui va suivre, mais c'est l'émission d'hier qui ne m'a plus laissé le choix. Donc c'est extrait d'une lettre de Tony Blancourt. Voilà. Je regrette profondément de quitter la vie parce que je me sentais capable d'être utile. Toute ma volonté a été tendue pour assurer un monde meilleur. J'ai compris combien la structure sociale actuelle était monstrueusement injuste. J'ai compris que la liberté de dire ce qu'on pense n'était qu'un mot, j'ai voulu que cela change. C'est pourquoi je meurs pour la cause du socialisme. J'ai la certitude que le monde de demain sera meilleur, plus juste, que les humbles et les petits ont le droit de vivre plus dignement, plus humainement. Je garde la certitude que le monde capitaliste sera écrasé. Pour cette cause sacrée, il m'est moins dur de donner ma vie. C'est donc l'extrait d'une lettre qui date du lundi 9 mars 1942, le jour où Tony Blancourt a été fusillé par les Allemands. C'est donc... Voilà, je pense qu'il faut tout faire en sorte pour ne jamais l'oublier.
Maman, papa chéri, vous saurez la terrible nouvelle déjà quand vous recevrez ma lettre. Je meurs avec courage, je ne tremble pas devant la mort. Ce que j'ai fait, je ne regrette pas si cela a pu servir à mon pays et à la liberté. Je regrette profondément de quitter la vie parce que je me sentais capable d'être utile. Toute ma volonté a été tendue pour assurer un monde meilleur. J'ai compris combien la structure sociale actuelle était monstrueusement injuste. J'ai compris que la liberté de dire ce qu'on pense n'était qu'un mot et j'ai voulu que cela change. C'est pourquoi je meurs pour la cause du socialisme. J'ai la certitude que le monde de demain sera meilleur, plus juste, que les humbles et les petits auront le droit de vivre plus dignement, plus humainement. Je garde la certitude que le monde capitaliste sera écrasé. Pour cette cause sacrée, il m'est moins dur de donner ma vie.
Voilà, Tony Blancourt était né en Haïti. Oui, c'est étonnant, hein. Aujourd'hui, cette lettre, qui est lue par un confrère de Radio France Internationale qui s'appelle Franck Salin. Eh bien, cette lettre, évidemment, fait un drôle d'écho à ce qui se passe dans ce pays, en Haïti, même si évidemment c'est pas le même genre de résistance, mais voilà, c'est les hasards de la vie. Donc là, c'est sa dernière lettre, effectivement, celle qu'il a adressée le 9 mars 1942, depuis la prison de la Santé à Paris, juste avant d'être fusillé, une lettre qu'il a adressée à sa famille. Tony Blancourt était donc né en Haïti, il fait ses études à Paris, il s'engage dans la résistance et il participe à un attentat le 3 septembre 1941 contre un officier allemand et puis ensuite à plusieurs attentats et à plusieurs sabotages. Il est arrêté par la police française, il est livré à la Gestapo et il est fusillé le 9 mars 1942 au Mont-Valérien. Cette lettre figure dans ce très très beau livre que vous connaissez sur les lettres des fusillés. J'ai parlé de Franck Salin qui lit cette lettre. Je vous remercie, on n'a pas eu tout à fait le temps hier de remercier d'autres amis qui ont lu les lettres de l'émission d'hier sur la fiche rouge. Ce sont pas du tout des comédiens, ce sont des confrères de Radio France Internationale. Nos bureaux sont juste à côté, donc on va les voir et ça nous fait des accents, ça nous fait des couleurs, ça nous fait des amitiés. Et notamment la lettre de Shlomo Grivach est élu par Piotr Blowinski, qui est donc journaliste à RFI. Il y a une lettre qu'on n'a pas diffusée, mais qu'on diffusera un beau jour, une lettre de Alfonso Celestino qui sera lue par Carlos Pizarro. Et puis c'est Tudor Tepeneag, qui est de la section roumaine de Radio France Internationale, qui a lu la lettre de Manouchian. Voilà. Et juste une petite note quand même, c'est que ceux qui se donne beaucoup de peine pour nous protéger du terrorisme, prennent le risque de se tromper. Parce que, évidemment, tous les terroristes ne sont pas des héros, mais il arrive que des héros soient d'anciens terroristes.
Je suis sûr que vous me comprendrez, papa et maman chérie. Vous ne me blâmez pas. Soyez fort et courageux. Vous me sentirez revivre dans l'œuvre dont j'ai été un des pionniers. Mon cœur est plein de tendresse pour vous. Il déborde d'amour. Je vois toutes les phases de cette enfance si douce que j'ai passée entre vous deux, entre vous trois, car je n'oublie pas ma Dédé chérie. Tout mon passé me revient en une foule d'images. Je revois la vieille maison de Jacques Mel, le petit lycée, les leçons de latin et Monsieur Gousse. Ma pension au petit séminaire et le retour des vacances. Mon vieux coucoute que j'aurais voulu guider à travers la vie et mon petit Gérald. Je pense à vous de toute ma puissance. Jusqu'au bout, je vous regarderai. Je pleure ma jeunesse, je ne pleure pas mes actes. Maman chérie, je t'aime comme jamais je ne t'ai aimé. Je sens maintenant tout le prix de l'œuvre que tu as entreprise à Haïti. Continue d'éduquer ces pauvres petits Haïtiens. Donner de l'instruction à ses semblables est la plus noble tâche. Papa chéri, toi qui es un homme et un homme fort, console maman. Sois toujours très bon pour elle en souvenir de moi. Tous vivez en paix et pensez bien à moi. Je vous embrasse tous bien fort. Comme je vous aime. Adieu, votre petit Toto.
Yes, il y a dans ta boîte une poulette pour nous là, moi le fais magie à mâcher. Yes, il y a dans ta boîte une poulette pour nous là, moi le fais magie à mâcher. C'est où que mâcher, c'est où qui ouais. C'est où que mâcher. C'est où qui ouais à oh, est-ce il y a dans ta boîte une poulette pour nous là, moi le fais magie à mâcher. Si est-ce il y a dans ta boîte une poulette pour nous là, pour me faire magie à mâcher.
Écoutez ce que Yuri Gagarin a dit avant de prendre place à bord du vaisseau cosmique Vostok.
Люди всех стран и континентов. Через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие...
Chers amis lointains ou très proches, chers compatriotes, habitants de tous les pays et de tous les continents, dans quelques minutes, un puissant vaisseau cosmique m'emportera loin dans l'espace. J'ai peine à décrire ce que j'éprouve, mais il me semble que j'ai vécu toute ma vie dans l'attente de ce moment-là.
Я испытал большое счастье быть первым в космосе.
J'ai vraiment le sentiment d'engager un combat sans précédent avec la nature.
4, 3, 2, 1, 0.
Jean-Claude Ladra va partir bientôt dans sa soucoupe en bois. Retentons-le.
Je suis le seul homme qui dort depuis 2 ans dans la niche. Oh, ta gueule!
Salut, c'est Daniel Mermet avec Anne Rioux, là-bas, si j'y suis.
Flight number 2.
Même moi, je ne saurais pas la nuit où ça va être. Je peux déjà vous dire que ça sera une nuit vers 3h du matin parce que j'ai un temps de préchauffage de l'appareil important. Il faut compter environ 30 minutes. Il faudra que ces sphères soient alimentées en courant 30 minutes avant de faire une tentative de décollage. Vous voyez, ça ne pourra pas être impromptu. Il faudra déjà une trentaine de minutes avant de commencer à donner le fluide. Et là, il faudra le donner pendant quelques minutes. Pendant environ 7 minutes, je prévois.
Mais comment, avec vos mains?
Je le donnerai avec mes mains. Dans les 2 derniers mois qui précéderont ce départ, personne n'entrera dans cet engin sans que j'aie testé dans sa main ou pendule s'il est positif ou s'il est négatif. Je n'ai pas d'amis.
Bon, alors, quand même, de l'extérieur, supposons votre mère, par exemple, est-ce qu'elle verra la soucoupe décoller physiquement vraiment?
Certainement, je la regarderai pas.
Elle ne verra pas, ne saura pas.
Non. Je serai dans mon lit, moi. Vous voyez? Eh bien... Quand il partira, qu'il sera parti, je me réveillerai. Je me réveillerai d'instinct. Je sortirai, mais trop tard. Trop tard. Je sortirai trop tard. Mais il y aura quand même l'esprit qui sera là-haut, avec lui.
Donc, c'est-à-dire que sans rien dire à votre mère, vous allez quitter la maison et vous mettre dans la soucoupe quand vous serez prêt.
Voilà, c'est ça. C'est ça. Et puis, ça sera un soir en me couchant. Je vais me sentir prêt. Et alors un matin, ben, il n'y sera plus. Alors les gens qui se rendront dans le fin, la soucoupe n'est plus là. Voilà comment je veux que ça soit.
Jean-Claude et sa maman. Amis auditeurs, souvenez-vous, Jean-Claude Ladra et sa mère, Madame Suzanne dit aussi Mimi. Elle, 81 ans, 1m61, lui, 1m75 et 100 kilos. Jean-Claude et son fluide, l'homme au pouvoir bionique et sa soucoupe volante en bois. Madame Suzanne, sa mère, qui l'a engendrée, telle l'Immaculée Conception, puisque c'est un esprit, un pur esprit qui est le père. De Jean-Claude. Jean-Claude, l'homme de l'espace. Quel espace ? La France.
Sa soucoupe volante en bois est française, en bois français, comme la viande de vache folle française, celle qui ne refile pas le sida. Voilà pourquoi, aujourd'hui, amis auditeurs, nous retournons à Germignac, 10 habitants. Une autre raison, c'est que depuis 1993, où nous avons fait le premier reportage avec la même Anne Rioux à Germignac, 10 habitants, auprès de Jean-Claude, l'homme bionique, et sa maman, Madame Suzanne, dit aussi Mimi, vous êtes très nombreux à poser la question, que devient Jean-Claude ? Jean-Claude a-t-il enfin décollé dans sa soucoupe en forme de sein, où il dort chaque nuit, dans ce giron rond au fond de son jardin, avec l'ombilical cordon de ceinture de sécurité, dans ce nichon plein comme un œuf, plein comme un œuf. Jean-Claude, poète naturel, nage dans le liquide amniotique des hautes eaux mythologiques, rescapé de la normalité. Jean-Claude, un Français, a réussi à échapper aux réducteurs de tête et autres frappeurs d'aliments. Ah, si André Breton avait connu Jean-Claude, à une époque où l'on emploie le mot surréaliste pour n'importe quelle petite anodine fantaisie de rien du tout, surréalisme vidé de sa jubilante subversion, on a envie de murmurer, André Breton, reviens, ils sont devenus pas fous. Alors, Jean-Claude partira-t-il un jour ? Partir ? Partir ? Le voyage n'est nécessaire qu'aux imaginations courtes, disait notre grande Colette. Et Antoine Blondin ajoutait, la prochaine fois, nous prendrons des trains qui partent. Mais la prochaine fois, c'est quand ? C'est dans le toujours demain.
On avait parlé dans toute la France. Cette soucoupe volante que toute la France avait vue.
Non mais qu'est-ce qui vous rend formel sur le fait que la soucoupe volante de Jean-Claude Ladrin ne peut pas décoller ?
Ah, le poids, le moteur, non mais...
Ils vont nulle part, les fils électriques. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fonctionnent ?
Ça fait 20 ans que ça dure ça.
Ce qui est bien, c'est que ça fait connaître la région. Quoi.
Mais non, on ne connaît pas notre région par Jean-Claude. Oui, il y a du cognac, il y a du pinot, il y a pas mal de choses quoi, à déguster.
C'est le pays de l'art roman, donc il y a déjà toutes les églises et autres à visiter, les arènes de Saintes, les choses comme ça. Donc c'est.
Mais vous allez le voir de temps en temps ou pas ?
Je suis jamais allé le voir.
Non ?
Non, jamais.
Je sais qu'il devait partir.
Exactement.
Oui, oui. Mais on n'a pas de nouvelles depuis.
Ça volera jamais son truc là, c'est pas possible, c'est impossible d'ailleurs.
Pourquoi ?
Bah, c'est tout un ciment, vous avez vu. C'est du ciment, c'est ça ?
Sceptiques, les voisins. Très sceptiques, les voisins de Jean-Claude. Mais on se pose des questions. Est-ce que c'est du ciment ? Ou est-ce que... En fait... On parle d'un roman dans la région de Germignac, 10 habitants, mais on s'intéresse de plus en plus à Jean-Claude Ladrin et à sa soucoupe volante. Pourquoi ? Parce que, ben oui, des gens comme nous, des journaleux, sont venus avec leur micro, leur stylo, leur caméra, raconter cette histoire. Alors il y a ce regard un peu condescendant qu'on a vis-à-vis du doudin. Et puis, petit à petit, eh bien, l'histoire de Jean-Claude Ladrin et de sa soucoupe a commencé à hanter un imaginaire. Et il serait bien possible qu'il y ait là-dedans, dans la poésie de ce poète naturel, un grand nombre de métaphores et d'idées, de très grandes idées. J'ai eu la chance dans ma vie d'avoir pour professeur de sculpture Étienne Martin. Étienne Martin était un homme magnifique, remarquable, très grand sculpteur, membre de l'Institut, s'il vous plaît, et qui avait pris pour thème les demeures, c'est-à-dire des constructions sculpturales dans lesquelles il pouvait, lui, Étienne, se mettre. Et à partir de quoi ? À partir des mythes
mythologie personnelle de sa vie, de la maison de son enfance à L'Oriol, et de choses, de parfums qu'il recherchait, de souvenirs qu'il accumulait jusqu'à s'y cacher, s'y protéger dans ce symbole, mettons, pour faire simple, pour commencer, d'un giron maternel. Beaucoup moins intello, par des chemins tout aussi savants, mais d'une science naturelle, d'une poésie naturelle, Jean-Claude Ladra prépare son départ.
On va voir Jean-Claude, tu m'accompagnes ?
Oui, moi je dis que s'il arrivait à décoller, ça serait comme si une fusée décollait pour aller sur la Lune.
Et comment on l'appelle ici, Jean-Claude ? Il a un nom ?
La soucoupe volante. Voilà, la soucoupe volante.
Lui-même, on l'appelle la soucoupe ?
Ouais, l'homme à la soucoupe. Et c'est des gens très généreux. Quand on a besoin de quelque chose, ils nous le donnent. Puis sa mère, eh bien, elle est très gentille. Quand on y va, elle nous donne les chewing-gums, tout ça.
Quel âge as-tu, toi ?
13 ans.
Et comment t'appelles-tu ?
David.
Et toi ?
Moi, j'ai 12 ans et je m'appelle Lucie.
Oh, ta gueule ! Oh, veux-tu rester tranquille ? Vous voyez que la poubelle est pas passée, hein, non plus. Ils ont toute leur merde, là. Allez, rentrez.
Ah.
Alors.
Bonjour.
Vous étiez parti dans les campagnes environnantes?
Eh bien, le voilà. Eh oui. Et nous allons poser la question que vous vous posez depuis des années. Que devient Jean-Claude Ladra, l'homme bionique.
Attention, pardon.
Jean-Claude, oui, il faut vous dire qu'on a reçu énormément de courriers et les gens nous demandent que devient-il.
Oui.
C'est vrai ?
La vie de Jean-Claude continue, hein. Il a toujours pris la soucoupe comme un petit peu, disons, son hobby. Il mène dès qu'il a des finances qui le permettent. Mais la soucoupe continue, ma vie continue, et j'espère que ma destinée va bientôt arriver. Parce que la destinée, c'est de faire une soucoupe qui vole et que je parte avec.
Bah dites donc, elle a bien changé, hein.
Ah ben elle est finie, là.
Ah.
Pour moi, elle est finie. Je dirais qu'il lui manque un peu de fluide astral, mais ça vient en ce moment.
Non mais dites donc, elle est toute belle. Vous l'avez repeinte en blanc.
Oui, elle est alors... blanche en extérieur, ben elle est blanche, une sorte de gris blanc. Je passe d'un nuage, elle sera complètement invisible d'ailleurs.
Ouais. C'est quoi, un petit crépi?
C'est une sorte de ciment réfractaire. C'est un alliage que je fais moi-même à base de teinte blanche et de ciment réfractaire. De façon de manière, parce qu'il faut pas oublier que dans mes expériences, je compte que j'aurai affronté pendant quelques secondes de très fortes chaleurs. Pour moi, elle est 100% finie. Je n'ai plus d'idées nouvelles pour continuer au-delà. C'est pour ça qu'avant la fin de cette année-ci, je dirais même avant la fin octobre, j'aurais fait une tentative qui donnera ce qu'elle donnera, parce que mes tentatives de l'année 94 se sont soldées par des échecs, dont une qui a failli faire brûler la soucoupe d'ailleurs. Oh. J'ai fait 3 essais en 94.
Et alors ?
Et aucun des 3 n'a été satisfaisant.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé ?
Eh bien, c'est-à-dire qu'on n'a pas abouti au but final, c'est-à-dire de voler.
Oui, mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé quand même ? Vous avez un petit peu décollé ?
Alors, au premier essai, il s'est passé que c'est rien passé du tout, d'abord, ce qui est un peu inquiétant. Et il s'est avéré que mes branchements n'étaient pas d'une qualité terrible. Alors, au deuxième essai, j'avais modifié mes branchements. C'est les batteries qui ont failli exploser, qui chauffaient. Alors j'ai remodifié une troisième fois mes branchements, et c'était les sphères qui chauffaient. Et pour éviter que les sphères chauffent, j'ai diminué l'oxygène en faisant brûler à l'intérieur, vu que c'est quand même des sphères closes, en faisant brûler simplement une bougie. Quand elle s'est éteinte, elle avait consommé une grande partie de l'oxygène. Et ensuite à ça, j'ai ajouté un gaz neutre, de l'argon.
Ça se trouve, ça ?
Oui, ça coûte 2500 francs la bouteille, mais ça se trouve, hein, c'est pas donné. Hein.
Ah oui.
Mais c'est en vente libre.
Et à ce moment-là, donc qu'est-ce qui s'est passé ?
Eh ben, à ce moment-là, ça sera les essais de 80, c'est les essais actuels.
Ah oui.
Dans mes rêves, je la vois partir en vol stationnaire, puis passer sur la maison et tourner un peu direction Bordeaux et rejoindre le large pour finalement sa destination normale, le sud-sud-ouest, direction les Bermudes.
Le triangle des Bermudes. Et vous allez suivre l'autoroute au départ?
Ah non, surtout pas. Non, d'abord parce que je compte que je vais partir en milieu de nuit. Je suis quand même un compas. Non, disons que je vais peut-être aller voir pour naviguer pas mal à vue, effectivement, mais peut-être pas obligatoirement suivre la nationale. Hein. Mm-hmm. Mais de toute façon, j'ai déjà une bonne idée d'où je veux aller. Et comme c'est un engin qui met en jeu la télépathie, donc par conséquent, c'est presque l'engin qui va m'emmener. Je n'aurais presque pas à intervenir, en fait. Mm. Mais vous savez, c'est une part de rêve. Si cet engin fonctionne un jour, ce sera comme dans 500 ans, on parle de Christophe Colomb, mais là, on pourrait dire, il y a 500 ans, la drape une soucoupe qui a réussi à faire quelques kilomètres, ce qui serait déjà...
La première fois qu'on vous avait rencontré, vous disiez, quand la soucoupe volera, maintenant vous dites si.
Ah. Eh oui, parce que j'ai eu 3 échecs, ce qui m'a enlevé une part de rêve, parce que je bute finalement sur des réalités physiques. Allez, couchez.
Vous avez moins de problèmes d'argent qu'à une époque?
Oui, c'est vrai que je vais vous dire que printemps 96 a été l'horreur. Hein. J'avais l'impression qu'on me freinait. Ah oui. Puis à ce coup, pof, ça s'est libéré. En 2 mois de temps, mon compte qui était au rouge est passé au bleu fixe, le bleu soleil, tout. C'est lié à la destinée, je crois. Mm-hmm. Les choses ne seront que si elles doivent se faire, de toute façon. Ouais. C'est pour ça que je suis pas encore trop inquiet pour la soucoupe.
Alors, en plus, bon, moi, je vous avais pas vu depuis longtemps, mais j'ai trouvé votre mère en super forme.
Oui.
Elle a rajeuni.
Oui.
Vous aussi, vous êtes en super forme.
Ah oui, je suis un bon quinquagénaire, en pleine forme, hein, qui encore quand tu vois une belle femme, la regarde, hein, ça marche encore.
Vous êtes tout bronzé.
Oui, c'est vrai.
Et il y a une chose qu'on n'avait pas dit, c'est que vous avez des yeux extraordinairement bleus.
Ah oh, oui, mais vous savez, les yeux bleus, c'est les yeux d'amoureux, c'est peut-être pour ça, hein. Mais je crois que vous êtes pas mal de ce côté-là, vous non plus.
Bah, hein. Ouais, peut-être, mais... Non, mais c'est vrai, ça fait plaisir, parce qu'on se demandait tous, tout le monde se demandait ce que vous deviez...
Oui, si j'allais démoraliser sous prétexte que j'avais presque un an et demi de retard sur mes projets, mais en fait, ça n'a pas été un an et demi inactif, ça a été un an et demi où j'ai bossé.
Vous ne dessinez rien à l'extérieur, un petit drapeau quelque
chose? Non, vous savez, je suis pas... Non, je vois pas pourquoi je ferais cocorico. Les cocoricos n'ont pas versé un franc pour moi.
Non, mais vous pourriez dessiner des choses qui vous plaisent.
Non, cette couleur me plaît bien.
Sobre.
Non, je suis pas pour extérioriser. Je vois pas bien ce que je pourrais dessiner comme couleur. D'abord, non. Je trouve que blanc, comme ça, blanc, c'est bien. Celle-ci, cet engin à l'horizon, il ne se verra pas. Vous savez, si vous regardez un peu l'horizon, là, qui se couche, ou quelque part, c'est un peu blanchante, dans le fond, ben, au fond, je me baladerai en horizon, je serai invisible.
Un château de sable, c'est pas un vrai château. Vos enfants font un château de sable, vous les aidez à faire un château de sable, vous savez que c'est pas un vrai château. Est-ce que il y a pas un moment quand même vous y croyez à nouveau un peu? Vous jouez au cow-boy avec vos enfants. Et il y a pas un moment où vous y croyez à nouveau un peu? C'est une histoire vraie parce que je l'ai imaginée d'un bout à l'autre, disait Boris Vian. Jean-Claude joue au cosmonaute de son enfance. Et puis, il est devenu un vrai cosmonaute. Il a imaginé d'un bout à l'autre. Et c'est vrai. La vie est vraie. Il suffit de l'imaginer d'un bout à l'autre. D'un bout à l'autre, la vie est imaginée.
Vous me montrez l'intérieur?
Ah, mais je vous en prie, oui, c'est vrai que l'intérieur a changé.
Oui. Oh, mais dites donc, ça s'est bien rempli, hein? Il n'y a plus beaucoup de place.
Rempli, encore, il y a quelque chose qui ne veut pas de là.
Attendez.
Attendez une seconde. Je vous fais une petite place, voilà. Là, c'est bien rempli. Hop. Voilà. Moi, je me faufile au fond.
Alors, vous allez au fond. Ah oui, dites donc, c'est devenu étroit, hein?
Ah, ben forcément, les moteurs ont rempli leur... Oh, leur...
Les moteurs sont les trois espèces de grands tam-tams, là.
Oui, voilà. Mais si vous voulez éventuellement vous asseoir, il y a quand même...
Petit... Attendez, comment je me faufile jusqu'au lit?
Eh ben, comme moi. Si moi je suis passé à carré...
Ah, attendez, ouf.
Voilà, c'est ça.
Oula.
Théoriquement, c'est à quatre pattes, mais il n'y a rien de fragile.
Ah, à quatre pattes. Ouf, voilà. Voilà.
Ben, vous voyez, c'est un engin fait pour une personne, mais apparemment, on peut y loger deux.
Et est-ce que vous vous souvenez que, quand on était venu vous voir, vous aviez prévu une deuxième lit pour éventuellement ramener quelqu'un?
Ah oui, mais je l'ai dessous, c'est un petit lit gonflable, j'ai un petit lit, vous savez, comme un lit de plage, là, un petit lit gonflable.
Ah bon, vous pensez toujours à ramener quelqu'un de là-bas?
Mais pourquoi pas, oui. Ah mais de toute façon, je vais vous dire que depuis que nous nous sommes rencontrés même, et sauf que quelque part, maintenant, je suis deux. Je ne suis plus tout seul, déjà.
C'est-à-dire?
Ben, je suis deux.
Bon, j'ai cru que vous étiez marié.
Non, je suis deux. Je suis une personne double. C'est-à-dire qu'en fait, je peux dialoguer sans parler avec un esprit qui est toujours à mes côtés.
Et ça va faire une surcharge au décollage?
Ah non, mais l'esprit n'a pas de poids.
Sérieux, ça?
Ah, mais moi, je peux vous dire que c'est sérieux. Mais en fait, tous les médiums savent ce que c'est que la voix intérieure qui vous parle. Donc, je peux dire qu'on est deux, puisque j'ai un dialogue positif sur tous les sujets.
Mais il n'y a pas d'échange, enfin, c'est-à-dire que vous...
Ah, j'ai des échanges. Par exemple, si je vais faire un business, je questionne la voix intérieure pour lui demander si je peux faire ceci ou cela. Et je peux vous dire que ça s'est révélé très positif. C'est ce qui m'a sorti un petit peu de pas mal d'ennuis que j'avais. Hein.
Et ça, c'est arrivé comment?
C'est arrivé... Une nuit, j'ai reçu comme une voix qui m'a demandé si la soucoupe était finie. J'ai dit, pour moi, elle est finie. Et puis, ça c'est venu sur moi, c'est venu en moi. Et bon, c'est en moi, c'est je sais pas comment vous dire. Bon, c'est pas gênant. C'est surtout pour la soucoupe que ça m'importe un plus, en fait. C'est comme si on m'avait donné un petit coup de pouce de je sais pas où, de l'astral. C'est pour ça que je vous dis, j'attends des ondes de l'astral, mais quand je les attends, elles vont venir. Je sais, grâce à cette voix intérieure, qu'elles vont venir.
Et vous appelez ça comment?
Elle a un prénom féminin, l'autre. L'autre, je l'appelle Suzy.
Vous voulez dire que votre... Comment vous m'avez dit vous...
Oui, mon moi intérieur, disons, ce nouveau moi qui s'est révélé à moi, serait féminin, je l'appelle Suzy.
Ah, vous voyez, quand j'ai parlé de mariage, j'étais pas loin du compte. Hein.
Oui, c'était presque vrai. C'était même presque encore plus vrai que vous pouvez imaginer, d'ailleurs. Mais ça, je garde mes petits trucs. Hein.
Je comprends pas bien, mais...
Ah non, mais ça fait rien, c'est pas grave.
Bon... Et qu'est-ce que c'est ce bruit qu'on entend? Il y a une espèce de sifflement derrière.
Ah oui, non, mais là, j'aurais pu l'éteindre. C'est un chargeur de batterie. Là.
Ouais.
Ne bougeons pas, je me faufile. Vous allez voir qu'un gros, ça passe partout.
Ah, bah oui, c'est mieux. Hein. Et alors, mais donc, maintenant, c'est bien chargé. Je vois que vous avez du pain.
Il y a les provisions, il y a tout. Hein.
Il y a du pain, il y a du vin.
Il y a du vin, il y a un petit peu de vin, mais il y a quand même à votre droite. Il y a quand même 70 litres d'eau pour compenser, hein. Vous voyez, dessous les filets de pêche et tout ça.
Vous avez des filets de pêche?
Mais
vous avez...
Dessous le lit, vous avez deux lancers de mer et une carabine 22 long rifle. En fait, vous avez plein de trucs, hein.
Et vous avez un attaché-caisse d'homme d'affaires? Qu'est-ce que c'est que ça?
Ah oui, non, mais dedans, il y a des livres de navigation, il y a tout est plein.
Vous n'aurez jamais assez de pain.
Ah non, mais le pain, je m'en fiche. J'ai quelques poches de farine, de toute façon. J'ai trois paquets de pain, ça me suffit amplement. De toute façon, si je mange pas de pain, je serai comme quand on va en camping. Moi, je prends de pain.
Et alors, au centre donc de la soucoupe, qui fait combien déjà de diamètre?
Qui fait toujours 3,50 m de diamètre.
Ouais. Et ben, il y a trois batteries qui
c'est
sont.
C'est normal puisque c'est trois batteries qui composent une batterie par moteur, une batterie par trois sphères, si vous voulez, trois batteries.
Avec des pinces crocodiles qui relient tout ça.
Ah, ben, que les pages crocodiles me servent de branchement simple pour relier au tableau de bord, en fait. Parce que j'ai quand même un tableau de bord que vous n'avez peut-être pas encore aperçu.
Non, mais c'est difficile. Ah oui.
Ah oui.
Oui, c'est quoi, on bouffe?
Oui, ben là, vous avez un siège, et puis devant le siège, il y a un tableau de bord. Ah. Il faudra vous faufiler sur le côté. Oui, ah ben, dessous notre lit, là, il y a la veine de l'enrive, il y a les cannes à pêche. Dans les têtes de canne à pêche.
Mais comment vous allez pêcher avec une canne à pêche à partir de la soucoupe volante qui est fermée hermétiquement, non?
Mais pendant le trajet, il n'est hors de question ni de chasser, ni de pêcher, ni de rien faire, et ni même de se restaurer. Parce que j'ai impérativement besoin d'avoir les deux mains posées à plat pour donner mon fluide sur le tableau de bord. Il est hors de question de retirer les mains pendant cette période du tableau de bord.
Mais pendant combien de temps?
Ça peut durer 5-6. Mais de toute façon, je m'habitue actuellement à faire 4 heures par jour déjà.
Non, mais 5-6 quoi, jour ou heure?
Heure. Jusqu'à 8 heures. Je pense qu'il faudra 8 heures pour rallier les Bermudes.
Ah, seulement?
Seulement 8 heures.
Ah bon, je pensais qu'il allait falloir plusieurs jours.
Non, pensez-vous. Non, c'est...
Vous êtes mis une ceinture de sécurité quand même?
Je me suis mis 3 ceintures de sécurité.
Pourquoi? Ça va être violent?
Je pense que le départ sera doux. Mais c'est mon expérience au niveau Bermude qui va être très, très, très périlleuse. 3 ceintures ne seront pas trop. Et 3 solides en plus. Hein.
Je vous trouve plus gai.
Oui, non, mais c'est vrai, je suis pas malheureux, je vous dis. Et puis, j'ai aucune raison d'être triste parce que j'ai toujours la petite foire réconfortante si j'ai un petit peu de spleen comme tout le monde, un petit peu de cafard, mais j'en ai même plus. Je peux plus avoir de cafard parce que quand je vais être tout seul, un peu engourdi dans mon coin, puis la petite voix va me dire, et alors Jean-Claude, ça va pas, il y a des problèmes? Parce que c'est une petite voix pensante qui a un dialogue avec moi, c'est pas moi qui fais le dialogue.
Et pourquoi Suzy?
Et parce qu'elle a un code compliqué avec des chiffres.
Suzy, c'est pas au hasard, vous me dites c'est la traduction d'un chiffre, mais c'est quand même, c'est féminin.
Non, c'est pas tout à fait ça, disons. C'est disant que, avant que cet esprit ne vienne me voir, j'avais rêvé d'une Suzy que je devais rencontrer. Et quand cet esprit est venu me voir, je l'ai appelé Suzy pour, disons, c'est bien mieux que de rester dans l'expectative d'un être avec un code à 8 chiffres, ce qui fait 14 millions et des poussières, ça ferait quand même beaucoup, hein.
Elle me conduit, la créature, jusqu'à sa planète en orbite. Dans sa galaxie de sulfure, et je n'en crois pas mes orbites. Elle me conduit en météore jusqu'à son petit pavillon pour me lire tout bas du pôle fort. Je n'en crois pas mes pavillons. Je suis terrien, elle est terrible. J'ai le cœur très 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 sensible. Je vais sans but, je vais sensible. Je vais sensible.
Remonter les couvertures et partir vers de nouvelles aventures. Tous les enfants du monde ont connu ça, et Jean-Claude Ladra, ancien enfant, tout simplement, également.
Et après, donc, nouvelle tentative, on a dit en octobre, hein, 96.
Oui. Ouais.
Et après, ben...
Eh ben après, il y aura au moins encore un an de boulot avant une cinquième tentative. Ouais. Mais parce que là, la prochaine fois, ça va être le changement des tensions. Ça m'oblige à changer toutes les petites lampes, là. Toutes les petites lampes que j'ai à la tête. Mmh. Vous allez mieux les voir de nuit, tu vois. Il y a des petites lampes partout, là.
Et votre gaz, là, où est-ce qu'il est?
Ah, ben il est à l'intérieur des sphères. Ah, mais les sphères sont closes dessous, partout. C'est bien étanche. Hein.
C'est quoi, c'est du papier craft, c'est quoi, non?
Ah oui, mais le blindage supérieur, mais il y a plusieurs couches d'aluminium, c'est...
Ah oui, pendant la construction, on voyait très bien qu'il y avait des fils de cuivre, mais là, on ne voit plus rien, en fait.
Ah, non, ils sont à l'intérieur, c'est vrai.
Ah, d'accord. Mm. Ça doit donner une sacrée poussée, quand même, au décollage, 3.
Non, c'est pas une poussée, ce système d'engin... Ça veut plutôt faire une sorte d'inertie, plutôt une sorte de lévitation qu'une sorte de poussée. Il n'y aura jamais une poussée comme un avion réaction, hein. C'est pas du tout le même principe, c'est pas du tout. C'est plus de la lévitation que de la poussée.
Bon. C'est quand même un honneur de pouvoir revenir dans cette soucoupe volante avant son départ.
En tout cas, terminée. Là où vous la voyez, elle est terminée, là.
Dans toute sa beauté.
Ah oui, mais c'est pas vous qui m'aviez dit qu'elle ressemblait à une sainte femme? C'est toujours vrai, d'ailleurs. Je vis dans un sein de femme.
Ouais,
je dors dans un sein de femme.
Et alors?
Eh ben, ouais. Oh, ça fait pas de rêve érotique, non. Non, c'est plutôt, je vous dis, des rêves de voler.
Vous n'aviez jamais remarqué que ça ressemblait au sein d'une femme?
Non, avant que vous me le disiez, non, mais ça peut. On peut dire un igloo aussi. Ou bien ça vole, disons, ou bien il vole. Ou bien ça ne bouge pas, mais si ça vole, ça va une certaine vélocité.
Ah, qu'est-ce qu'il y a? Votre mère?
Ma mère nous appelle pour manger.
Ah.
parce que les pizzas vont être froides.
On va peut-être y aller, alors. Attendez, alors, pour ressortir, je passe d'abord. Je passe sous le moteur.
Voilà, mais moi, j'ai une mèche, nous, pour vous, c'est moi le moteur. Voilà. Vous voyez bien que vous passez.
Oui, mais... Parce
que moi, avec mes 100 kilos, je passe.
Bon.
En ce moment, vous n'avez pas l'habitude, évidemment.
Ah ben non, j'ai pas l'habitude, non, c'est pas
alors
comme
que
vous.
Moi, vous voyez, je fais quelque chose beaucoup plus simple, je mets carrément les genoux par terre. Voilà, et puis vous voyez, je me sors facile, sans effort, parce qu'il faudrait que j'y pense 10 fois dans la journée, alors que je commence depuis 3 ans à avoir l'habitude.
Bah oui, oui,
oui. Attention à votre tête en vous levant.
Merci. Et la ficelle, ça suffit.
Ah, mais il y a 2 ficelles qu'on utilise, c'est pour attacher les petits panneaux du dessus de la porte.
C'est
un peu pour le clou, là, ouais. Ficelle, mais on n'en a rien à foutre. C'est pas un engin qui est fait pour épater les gens.
Ouais, ça fait bout de ficelle, quoi.
Ah ouais, mais c'est pas grave, c'est des petites ficelles, j'aurais pu mettre des ficelles de luxe, mais sauf.
Bon, alors,
la fonction est la même.
Je baisse la tête, oups, voilà.
Alors, c'est ce que je vous ai, vous voyez, ça se ferme. Là, voilà. Et puis, alors, vous voyez, les ficelles, utilité pour fermer les petits panneaux, pour éviter que ça cogne au vent comme ça. Vous voyez comme elle est belle, la nuit? Elle devient bleue au clair de lune. Le blanc, ça vous fait une vision bleutée.
Votre soucoupe volante?
Oui. Ouais. Le soir, quand je la regarde, là, chaque fois, je la trouve plus belle.
Houston, this is Tranquility. We're standing by for a go for a cabin depress. Over.
Chacun, qu'il le veuille ou non, tente de construire sa soucoupe. Chacun, qu'il le veuille ou non, tâche de construire son arche. Chacun, qu'il le veuille ou non, tente de trouver son île, son aile, sa Suzy. Jean-Claude, avec d'autres métaphores que celle-là, construit simplement sa destinée et navigue dans sa soucoupe. Qu'elle soit arrêtée ou qu'elle parte, c'est tout à fait secondaire. L'important, c'est une destinée accomplie, imaginée et unique.
Évidemment, il y a des gens qui doivent rigoler, non? Qui doivent se moquer de vous.
Oui, mais je le vois d'entrée.
Ah oui, on le voit
et
d'entrée.
Avant qu'il n'ouvre la barrière, en fait, je vois facilement si quelqu'un se moque de moi ou s'ils ont des rires entre eux. Vous savez, souvent, ça se coupe court. À ce moment-là, la visite est ultra rapide. Ils sont ressortis avant d'avoir compris quoi que ce soit parce que je perds pas mon temps.
Oui, mais vous leur parlez quand même.
Ah, mais je leur parle quand même. Ils viennent voir la soucoupe, bon, ben, ils la regardent, mais je m'étends pas sur les explications.
Ah ouais. Mais sinon, ça ne vous atteint pas, ça vous touche pas?
Oh, vous savez, je crois que d'abord, de toute façon, tout inventeur a toujours été un petit peu... Faut qu'il s'habitue au colibé, hein. Faut s'y attendre, hein. Moi, je peux vous dire, on n'a jamais été juste comme traité de fou. Bon, peut-être pas tout à fait quand même. Mais comme quelqu'un de bizarre... De toute façon, dans la mesure où vous sortez de la norme, vous êtes bizarre. Et bon, ben, moi, je me trouve pas bizarre. En fait, c'est les autres qui font rien, qui me paraissent bizarres, de ne rien faire de leur vie.
Bienvenue.
Voilà.
Ouais. D'accord?
Oui, 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 d'accord.
Moi, ma destinée, bon, ben, c'était de faire une soucoupe. D'ailleurs, j'en ai fait 2. Et pourquoi pas 3 si j'ai un résultat positif avec la seconde? Pourquoi pas 3? Mais alors une plus grande, alors toujours plus grand. Pourquoi pas 3?
Il faudra qu'ils prennent quelqu'un.
Mais la troisième, évidemment, ne pourra pas se faire sans que j'ai une réussite positive avec, et physique avec la seconde. Hein. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle vole. Cette soucoupe doit voler. Si elle ne fait pas son voyage aux Bermudes, pour moi, c'est cuit. Il n'y en aura pas d'autre. Finalement, la seule chose qui m'atteindra, je peux vous dire, même si je dis le contraire parfois, c'est vraiment si j'avais un échec total. Mais je n'ai pas un échec total. Déjà à cette minute, je suis loin d'avoir un échec. Ça m'a apporté du bonheur, ça m'a apporté des années d'espoir. Il y en a qui seraient prêts à payer très cher pour avoir des années d'espoir.
Et alors justement, supposons, vous décollez. Vous allez faire vos courses au Triangle des Bermudes.
Voilà, on peut appeler ça comme ça.
Bon, vous revenez, et après, qu'est-ce qui vous reste comme motivation, comme rêve?
J'ose même pas me poser la question, en fait. Parce que tout homme qui atteint son rêve, il brise quelque chose en lui. Parce qu'en fait, imaginez-vous, si tout celui qui a un rêve le réalisait, ça serait...
Mais si vous le réalisez complètement, vous n'avez plus de rêve.
Non, c'est vrai qu'il va me... Mais j'aurais peut-être autre chose.
Il y aurait autre chose.
Il y aurait autre chose ?
Oui.
Quoi ?
Non. Dis ce que tu penses, après tout. Hein. Parce que tu ne m'as peut-être pas dit à moi ce que je dois croire.
Papa. Non.
Ah oui, c'est possible qu'après je fonde une famille, papa, éventuellement. Vous voyez, ça fait partie des choses que j'ai pensées. Ça serait, je considérerais ça un peu comme le repos du guerrier, de fonder peut-être une famille, ou pourquoi pas. Les choses se font à leur heure.
Si Suzy est d'accord.
Si Suzy est d'accord, mais Suzy sera peut-être plus là à ce moment-là.
Je veux dire à Suzy qu'elle dise que... Non. Qu'elle n'est pas la peine que tu aies des drôles, parce que je ne veux pas les bourser et m'amuser à me casser la tête tout le temps.
Ah, mais s'il y a les drôles, j'espère bien qu'il y aura la maman, quand même.
Ah, les drôles des enfants.
Oui, oui.
Mais les enfants ne se font pas seuls, de toute façon, je ne pourrais jamais faire un enfant tout seul, hein. Non, de toute façon, il faut être deux, là, cette affaire-là.
Oui, d'accord, mais t'es stérile?
Non, mais...
Quand t'étais parti là-bas...
Tu m'as dit le nombre d'enfants que vous aurez.
Quand t'étais sur les bateaux...
Mais parle franchement.
Ouais, ben, t'as dû en faire des drôles.
Eh ben, j'en ai peut-être fait, mais comme ils portent pas mon nom, ça compte pas. Bon. Ça compte pas. Quand les enfants... de toute façon, quand j'allais avec les femmes de marins... Dans la mesure où je payais, ça ne m'intéresse pas.
Quand vous serez riche et célèbre, elles reviendront toutes avec des enfants à vous.
Alors là, ça, je rigolerai.
J'ai jamais été un Apollon, ça ne va pas venir d'un seul coup.
Avec la maturité, ça peut.
Ah, ça peut, ouais. Les yeux, il faudrait que je trouve une femme aussi folle que moi, pourquoi pas, après tout.
Il
en existe. Je viens en avoir une, quand même. En fait, moi, ça se fait au coup de foudre ou ça se fait jamais. Oui, et puis qui ne soit pas trop conformiste, c'est-à-dire pas boulot dodo et puis seulement ça dans la vie. Un peu une aventurière quand même, hein, quelque part. Hein.
Faudrait une blonde aux yeux bleus.
Pourquoi une blonde?
Parce que t'aurais un petit blond aux yeux bleus.
Tu sais bien que les hommes aiment les blondes, mais épousent les brunes.
Ouais. Non, mais... Faut avoir la queue en bas aussi, faut avoir toujours la queue en l'air. Ah, non. Avec une jeunette.
Ah oui, mais ça fonctionne bien cet organisme-là. Je suis zen, moi. Je suis zen, ça marche bien. J'ai quand même fait déjà plus ou moins l'amour avec un esprit, ça m'est arrivé. Mais c'est bizarre, hein.
Ah bon, vous aussi?
Ah oui, mais de toute façon, je ne suis pas le premier humain à qui c'est arrivé, ça. Ça m'est arrivé une fois, il y a deux ou trois ans. Il y a deux ans de ça. Mais je n'avais pas Suzy encore, c'était une autre fois. Ça m'est arrivé un truc bizarre, que j'avais l'impression d'être avec une femme. Alors qu'en fait, j'étais dans la soucoupe, bien tout seul. J'ai eu l'impression de faire un acte sexuel normal.
Ça s'appelle un rêve.
C'est plus qu'un rêve, quand même. Enfin, je crois que c'est la taille en dessus du rêve, quand même. Hein, parce que, à la fin de l'opération, les draps étaient mouillés, quoi.
Alors, bon, attendez, je sais plus où j'en suis, moi.
On parle quoi de cul, là, tout
non,
le temps.
Non, j'espère qu'on va pas passer ça à l'antenne, quand même.
Allez.
Le vol se déroule normalement, je me sens en parfaite condition physique. J'ai été plaqué contre mon siège comme par un monstrueux coup de poing lors de la foudroyante accélération du départ, écrasé pendant toute l'ascension comme doit l'être le papier sous la presse de l'imprimeur, mais à aucun moment je n'ai perdu le contrôle de mes sens. Je n'ai pas eu un seul instant d'inquiétude. État d'impondérabilité. Force d'attraction terrestre exactement compensée par force centrifuge. Maintenant je vais utiliser le manipulateur télégraphique. Comme tout est facile à faire. Je viens de démasquer les hublots. Les obturateurs ultra rapides ont parfaitement fonctionné. J'ai sous les yeux un paysage de rêve. La Terre est couverte d'une brume bleue. Mais je distingue très nettement les continents, les océans, les îles, les grands fleuves, les forêts, les montagnes. C'est beau. Ah, je peux vous affirmer qu'elle est bien ronde, notre vieille planète. Un vrai pamplemousse. Je le constate quand je regarde l'horizon. Ici Vostok. Terminé.
Voilà, merci Vostok.
Merci Jean-Claude Ladra, merci à sa maman, merci à Suzy, merci à Anne Rioux qui était notre reporter, technique Antoine Viossa et Michel Thomas, le répondeur c'est Yann Chouquet, le numéro c'est le 01 56 40 37 37, le numéro du répondeur de la basse j'y suis, les musiques c'est Koyen Guyen et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale. Il est 18h sur France Inter. On se retrouve demain à 17h. Je vous laisse pour le journal avec Delphine Simon. Salut.